Les archéologues auront reconnu The Clash sur les ondes de Sequoia 88.3 Québec, la radio des nouveautés. Vous écoutez Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Je suis Nicolas en compagnie de...
Jenny.
Et de Farouko, qui n'a pas l'intention de parler cette semaine parce qu'il a remonté son micro et que s'il le descend, ça va faire un boucan d'enfer. Donc, pour cette émission du retour des fêtes...
Je vais parler d'un cri du cœur d'un travailleur de Levesque-Villon.
Oui, là, ça, c'est une papetière qui a fermé, c'est ça?
Oui, papetière dans le temps qui a fermé un peu 3 ans. Il ne savait pas, puis ça a fermé juste avant les fêtes.
D'accord. On va profiter du fait que le collectif Anarchiste la Nuit est dans une multinationale médiatique intégrée pour présenter une entrevue réalisée à Sherbrooke à propos d'une lutte qui se passe en Outaouais. En fait, c'est nos camarades de la Rage du Peuple qui ont fait une entrevue avec quelqu'un de l'autogéré, un café-bar autogéré, on s'en doute, à l'Université du Québec en Outaouais. Et on va revenir sur les mobilisations contre... mon Dieu, je sais pas comment on peut appeler ça, contre la boucherie à Gaza. Donc voilà, sur ce, on s'en va en musique avec Exclave... Ah non, oui, c'est cela... Les esclaves salariés.
La vue sur la rivière, qui ont raison du Vietnam et de voir tous ces morts. La misère qui condamne, tout pour cacher le gris, la pluie et la éclair. Le bonheur essentiel, apparaît en pleine page. Il ne reste pas les images les plus belles. Et cache un peu d'horreur, cache un peu d'horreur. L'image parfaite, la haine ne t'arrête pas. Ne montre pas le secteur. L'image parfaite, voilà l'image parfaite dans leur tête. Les mêmes mots qui nous mentent et qui mentent ne montrent rien d'édifiant. Le soleil et la mer, la misère ne garde pas tellement l'image est parfaite. Tout ce qu'on présente, y'a pas à dire, les mots peuvent le décrire. Les images les plus laides ne dévoilent pas les restes, ne dévoilent pas les restes. L'image parfaite, elle ne garde pas, ne montre pas le secteur. L'image parfaite, fuck l'image parfaite dans leur tête.
Un regard sur le monde, d'une vision déplacée.
basé sur la mort, les images de l'écran. Mais dans la vue est belle, je reste l'esclave d'une image américaine. L'image parfaite, elle ne carole pas, ne montre pas le sein pas. L'image parfaite, elle ne carole pas, ne montre pas le sein pas. L'image parfaite, fausse image parfaite dans leur tête.
De retour à Voix de Fée sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Alors, on ne sait plus trop si on doit mettre ça sur le dos de la crise économique, du dollar en hausse qui est maintenant en baisse, ou du système capitaliste. Mais bon, en tout cas, bref, il y a des usines qui ferment et ça amène son lot désagréments.
C'est ça, c'est à Levesque-Villon, c'est l'usine de la voie de l'usine d'Amtar qui a été fermée pendant 3 ans suite à un lock-out. Juste avant le temps des fêtes, la compagnie a décidé de fermer l'usine sans donner de prime de départ. Donc, il y a un travailleur qui a failli passer un cheveu de se tuer, en fait, parce qu'il avait envoyé le 5 janvier dernier, il m'a envoyé une lettre de suicide à la compagnie, puis à la station TVA de la BTB-CFM, qui disait qu'elle est suicidée, puis il disait que à cause des primes de départ que la compagnie avait refusé de donner, ça poussait à la faillite, puis que lui, il disait dans sa lettre-là, ben, dans les circonstances actuelles, il disait que le suicide était la seule option, puis la police a réussi à agir assez vite, mais c'est comme, il est toujours vivant, mais tu sais, on parle surtout, c'est une nouvelle qui est sortie juste dans un média de la BTB, c'est même pas sorti au national, ça, là, fait que...
Non, mais c'est des choses qui arrivent relativement fréquemment. Ceci dit, maintenant, il y a des cellules de crise à chaque fermeture d'usine. Et puis là, on en est où avec ce dossier-là en ce moment?
Ben ça a été, ils n'auront pas de... Je sais que dans le temps, je sais qu'ils ont dit, il n'y a pas longtemps, qu'ils ne donnaient pas de prime, tout ça. Puis, parce que nous autres, on s'en va pour ranger vos trous. Apparemment, quand ils aimaient, juste à la veste qu'ils violent, les maisons ne valent plus rien. Fait, ils ne peuvent plus vendre leur maison, ça vaut plus rien.
C'est une ville mono-industrielle.
C'est ça. Même que je sais qu'il y avait une mine là, mais elle a confirmé elle aussi. Puis...
Oui, on avait dit qu'on aiderait les gens de la foresterie en les recyclant en mineurs. Et puis là, finalement, l'industrie minière aussi est en crise. Donc, rien ne va plus.
C'est terminé.
D'accord. Oui, c'est quand même ébranlant. Sur ce, on a aussi une entrevue qu'on va vous soumettre. En fait, c'est un digeste. C'est une version courte, une entrevue beaucoup plus longue. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, on va mettre le lien sur notre blog vers l'intégrale de cette entrevue réalisée à Sherbrooke cette semaine par les camarades de La Rage du Peuple. La Rage du Peuple, c'est l'émission en estrie du collectif du 19 juillet, qui est le groupe de l'Union communiste libertaire là-bas. Une entrevue avec quelqu'un de l'autogéré. Ben voilà.
On va faire une entrevue avec Étienne Simard qui aurait participé à l'autogestion des cafés-bars de l'Université du Québec en Outaouais. Donc pour commencer, je te demanderais dans le fond d'expliquer aux auditeurs, auditrices, qu'est-ce qui s'est passé exactement en septembre dans votre coin.
Ok, ben en gros, ça faisait un an que c'était une firme privée qui gérait les cafés-bars et cafétérias à l'Université du Québec en Outaouais. Autrefois, c'était l'institution universitaire qui gérait le café-bar et la coop alimentaire, disons, qui gérait la cafétéria. Puis, un moment donné, par un tour de passe-passe institutionnel, ça avait été octroyé à une firme privée qui est la firme La Liberté. Après un an où elle a eu le contrat, elle a décidé de fermer les cafés-bars dès la rentrée en septembre 2008 parce que c'était pas assez rentable. Donc à partir de ce moment-là, les étudiants et étudiantes ont réussi à rentrer dans le café-bar et ont commencé à l'occuper. Ils ont décidé de l'occuper puis de lancer une campagne de boycott contre La Liberté, puis c'était aussi intégré dans une campagne plus large de l'AC de sortir le privé des institutions publiques. Donc, c'est ça. Mais après 2 semaines, en fait, le contrat avec la firme La Liberté a été résilié, puis c'est ça. On a réussi à foutre le privé dehors. Le processus de boycott, comment ça s'est passé, en gros, c'est que il y avait distribution de bouffe gratuite. Ben, c'était moyennant une contribution volontaire qui était distribuée directement à la cafétéria. Ben c'est ça, la cafétéria en fait ne faisait presque plus de revenus à partir de ce moment-là. Puis ça a été l'action directe qui a permis de foutre le privé dehors.
C'est reculé que l'être stationnaire, on le devient, notre philosophie.
C'est clair que c'est dans le pavillon, disons, des sciences humaines où ça a été le plus intense. Puis c'est aussi dans le pavillon de sciences humaines où le café autogéré a le mieux fonctionné et fonctionne toujours. Donc l'occupation illégale, ça fait toujours depuis, ça fait déjà
encore
2 mois et demi.
Ah oui? Ouais. Génial. Puis l'initiative venait des étudiants en tant que tels, d'une association étudiante en particulier ou
ben, du concours en fait, Ouais, ben en fait au départ c'était vraiment des étudiants et étudiantes qui ont décidé de lancer un petit comité qui avait pour but le rachat des cafés-bars.
Okay.
Ça a été récupéré par ben au départ 2 associations étudiantes, puis ça s'est élargi à 4 associations étudiantes de différents modules des sciences humaines qui ont lancé la. Ben, en fait, c'est vraiment à partir d'eux qu'ils ont lancé une campagne, disons, cohérente de boycott. Puis d'organisation de lutte, puis des actions directes comme telles. Ouais, fait que moi, ça a quand même été beaucoup porté par les associations étudiantes, mais il y a eu un bassin de militants et militantes quand même assez élargi. Dans l'implication directe, c'est aux alentours de 40 ou 60 personnes.
Okay. Puis tu m'as dit que vous aviez eu un support de l'AC également?
Ouais, ben clairement au niveau des communications, au niveau du matériel de mob, etc. Parce que justement, ça concordait beaucoup avec la campagne cette année.
Ouais,
puis,
ouais.
Ben il y a l'association des sciences sociales à l'UQO qui est membre de l'AC, donc.
Ouais, puis pour ce qui est de la participation, j'ai lu qu'il y avait quand même une très bonne participation. Les gens étaient assez willing, tu sais, jusqu'à participer au bouffe plutôt que d'aller tout simplement à la cafétéria. Ouais. Puis même de professeurs, peux-tu me décrire un peu l'ambiance qu'il y avait dans les cafés autogérés?
Ben en fait c'est ça la participation en fait de l'ordre de tout le monde qui ont participé même de manière indirecte, ça pouvait ressembler à peut-être 700 personnes en tout qui ont participé directement au boycott puis qui donnaient des contributions volontaires puis qui n'achetaient plus à la cafétéria, etc. Ça a été vraiment de tous les secteurs, disons, de la communauté universitaire, professeurs, chargés de cours, employés de soutien beaucoup aussi, puis ils sont tous devenus membres de la coop aussi par la suite avec l'aide d'appui, etc. pour que la coop autogérée se formalise.
It was a normal day at the store. Customers coming in, chicken going out.
La direction finit par résilier le contrat de la liberté en bout de ligne. Ce qui a laissé un peu le champ ouvert à une coopérative étudiante qui est, je l'imagine, en train de se mettre sur pied.
En fait, elle est déjà sur pied.
Okay.
Puis, on sait pas combien de temps encore ça va durer dans le mode sur lequel elle fonctionne en ce moment, mais c'est pas mal intéressant comment elle fonctionne. En gros, il y a, disons, un comité de... Ben là, c'est clair que ça fonctionne par AG pour le décisionnel, pour les orientations, etc. Il y a un comité de coordination à l'interne qui sert à s'assurer au ravitaillement de bouffe, puis mettons, gérer un petit peu les horaires de volontariat.
Mm-hmm.
Mais par contre, c'est ça, il n'y a aucune gérance à l'interne. Puis, en fait, presque tout le monde qui est utilisateur, utilisatrice du café-bar comme tel est également formé à comment faire le café, etc. Puis s'occuper de la bouffe, s'occuper du café. Ouais. Donc, le café fonctionne par lui-même, par les utilisateurs, utilisatrices qui sont là. En fait, c'est quand même spécial.
Non, ça serait pas nécessairement comme les coops classiques qu'on connaît ou admettons les coops de travailleurs où c'est les travailleurs qui vont pouvoir y avoir un impact, mais aussi les consommateurs.
Ouais, exact. Ben en fait, ça a été une mode, ben disons, elle a été formalisée stratégiquement parce qu'on essayait de justement on savait qu'on prendrait pas le contrôle sur l'université en général ou sur la société en général sur une base d'autogestion, disons, cet automne ou cet hiver.
Non,
donc,
oui.
L'idée a été de justement formaliser la coop pour qu'elle puisse être reconnue à l'interne. Comme tel, c'est ça, c'est sur le mode de coop de solidarité, c'est-à-dire okay. qu'il y a des membres utilisateurs, membres travailleurs, par contre, il n'y a pas d'employés pour l'instant, puis membres soutien aussi.
C'est pas lui qui pompe, qui fait le gendarme, c'est la moustache, c'est la moustache.
Puis au niveau de la répression que vous avez subie, est-ce que tu peux me faire un suivi?
Oui, ben en gros, ben c'est ça, c'est à la mi-octobre, je pense, une dizaine d'étudiants et étudiantes qui avaient reçu au départ des lettres, disons, qui disaient « vous êtes accusé de telle offense ». En gros, il était question d'indécence, d'intimidation, d'avoir... ouais, c'est ça, ça ressemble à ça. D'avoir bloqué, d'avoir entravé la circulation dans l'institution, puis d'avoir nui à la prestation d'un service, des services alimentaires à l'université. De tous ces gens-là, c'est seulement sept personnes qui ont été convoquées devant le comité de discipline à l'université. Puis, c'est ça, il y en a six qui ont eu des sanctions. Une personne a été suspendue, cinq autres ont eu des notes à leur dossier permanent d'étudiants et d'étudiantes. Depuis ce temps-là, ben là, c'est clair qu'il y a eu une mobilisation autour de ça pour dénoncer la répression à l'interne. Puis, en fait, ben, c'était inscrit aussi là, parce que c'était à travers la CIS, c'était pour dénoncer... disons, les dérives fascisantes des institutions d'enseignement postsecondaire au pays. Puis c'est ça, on a eu une journée de grève qui réclamait le retrait des sanctions. Là-dessus, ça a ouvert la porte à ce qu'on puisse aller rencontrer le CA de l'université pour leur exiger, disons, le retrait des sanctions comme tel. Il y a eu aussi des procédures judiciaires qui ont été entreprises. Par contre, ça n'a pas encore abouti à ce niveau-là, mais ça devrait continuer possiblement cet hiver. On est en dilemme sur la stratégie. On s'attend pas toujours à grand-chose du système judiciaire pour se faire justifier pour ça.
L'université, en même temps, penche un petit peu, si on veut, de votre côté pour ce qui est de le vous donner le contrôle à quelque part, donner le contrôle aux étudiants des services alimentaires, notamment résilier le contrat, mais en même temps, à ce jeu répressive, sûrement en vous surveillant, en vous entravant, puis là, en vous convoquant devant un comité de discipline.
Oui, ben en fait, il semble qu'elle a utilisé la situation, disons, la direction de l'université a utilisé un peu la situation pour régler des comptes avec certains militants,
ouais.
Certaines militantes, disons, de plus longue date au sein de l'université. C'était quand même des personnes très ciblées qui ont été convoquées devant le comité de discipline, alors que c'était pas nécessairement des personnes qui avaient, disons, commis des actions différentes des 40 autres personnes.
You always hurt the one you love.
En tout cas, c'est un peu ridicule de voir que l'université en profite, dans le fond d'un contexte assez effervescent pour régler ses comptes. Là. C'est assez ridicule.
Ben juste pour préciser, en gros, l'université n'est pas nécessairement favorable à ce que la coop, la coop autogérée gère les cafés-bars. En fait, il y a eu appel d'offres. Nous, ben genre, on répondait absolument pas aux critères, mais on a quand même soumis un appel. On a quand même fait une soumission. Mm-hmm. C'était pour rentrer dans le système comme tel. Finalement, des trois appels d'offres qu'ils ont reçus, il n'y en avait pas une qui correspondait aux critères. Okay. Donc, c'est la direction, en fait, elle a fini par décider, parce qu'elle ne pouvait plus l'octroyer à une firme privée. Je pense que c'est, en tout cas, c'est une règle de base de la gouvernance des universités. Mais... Donc, elle l'a donné à CoopSco, qui était l'ancienne coop universitaire. Donc, en ce moment, on en est à négocier avec CoopSco, qui a reçu, en fait, qui s'est vu octroyer le contrat. On devrait négocier avec CoopSco. Ben, en fait, négocier. On exige d'eux parce qu'on leur dit que dans la situation actuelle, de toute manière, le café-bar, c'est à nous. Puis socialement, à l'intérieur de l'université, c'est à tout le monde. Puis les gens se l'ont beaucoup approprié. Puis qu'ils arrivent dans le contexte en disant, ben, c'est nous qui gérons le café-bar maintenant, mais il n'est pas question de ça.
Puis ça vous fait un bon bassin, si on veut, de nouvelles militants, militantes, à partir de là, d'autant plus que c'est souvent dans ces situations-là qu'on se radicalise.
Oui, bien clairement, oui. Clairement, mais ça a été ça aussi le but de l'éducation populaire comme tel, c'était un peu la radicalisation des gens qui avaient un peu déjà des idées sur ce que, selon eux, ça devait être, etc. Puis de leur donner des moyens, justement, des moyens d'action directs pour pouvoir y arriver, puis aussi essayer de stimuler un peu une réflexion,
sur
une réflexion plus large, ben pas juste sur l'autogestion, mais tu sais, avec l'exemple de la répression, mais on a pu parler de répression institutionnelle, etc. Mm. On est allé plus loin. Il y a des gens qui ont fait des projets d'art qui ont en fait incarné la répression par un Léviathan fait avec les mises en demeure. Voilà. Vous pouvez voir la photo, il est là sur le blog de la coop comme tel. Donc ouais, c'est ça, il y a eu quand même d'éducation sur justement sur la répression institutionnelle, que ce soit étatique ou universitaire. Puis ouais, c'est, on a quand même fait pas mal de pouces sur tous les exemples concrets qu'on a pu avoir pour faire, disons, de la sensibilisation, de la conscientisation d'un certain nombre de réalités.
Donc, l'autogestion, ça plaît aux gens?
Oui, oui, ben ça plaît aux gens, puis c'est ça, c'est en fait, ils peuvent tellement en faire ce qu'ils en veulent.
Mais jusqu'ici, les bars appartiennent aux étudiants et étudiantes.
Oui.
Puis bientôt, ce sera l'université et ensuite le monde.
Exactement.
Parfait. Donc, je ne sais pas si on a fait, je crois qu'on a réussi à faire le tour de la question.
Ouais,
voilà. Toi, si tu veux rajouter quelque chose pour nos auditeurs, auditrices et à tous ceux et celles qui rêvent d'autogestion la nuit, tu peux y aller d'un élan.
Ben, en fait, je suggérerais juste aux gens qui ont envie ou qui voient des problèmes, justement, ou qui veulent joindre la lutte contre le privé dans les institutions publiques ou contre le privé, point, ben, que l'autogestion, lorsqu'il y a, disons, il y a un intérêt certain, populaire et général pour un service en particulier, ben, de se lancer dans l'aventure, la folle aventure de l'autogestion et que ça peut rapporter beaucoup, beaucoup plus, en fait, que la simple appropriation populaire d'un service, en fait, au niveau éducation et conscientisation de la dynamique plus large et de la répression sociale, etc. Ça apporte énormément pour les luttes sociales à venir. Donc, ben, je vous invite à le faire, puis si vous avez besoin d'un coup de main aussi, il y a pas mal de monde à l'UQO qui maintenant le font depuis plusieurs mois, et ça ferait certainement plaisir de donner un coup de main.
Parfait, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Donc,
voilà.
Nous, ici à la Rage du Peuple, on te remercie d'avoir répondu positivement à notre invitation. Pour ce qui est de l'entrevue, on va sûrement pouvoir l'isoler et la mettre sur notre blog à l'adresse suivante, au cacs.propagande.org. qui est le blog du collectif du 19 juillet.
Ben, merci beaucoup.
Celle-là, c'était une demande spéciale d'une auditrice spéciale. On va continuer avec Kenny Arcana avec sa chanson Ordre mondial.
Parce que même si ce système s'exprime... Ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça.
On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça.
Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez ou vous le voulez pas.
Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués.
Ils ont créé une guerre économique.
C'est un seul et même système.
Je suis là, partout. J'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance. Caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières. Un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les enfants. Histoire que les affaires montent, je ne défends pas l'être humain. Je défends les capitaux, j'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de prier en sans croire qu'on ne vole rien. Au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la biométrie sur vos patrons. J'ai fabriqué la peur pour que tout le monde soit sur écoute. Car moi je veux tout répertorier, moi je veux des chiffres et des codes barres. Je contrôle vos esprits par le biais des médias. Vous êtes à ma merci, les pieds embourbés dans l'inertie. Car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour vous apprendre la hiérarchie à toujours obéir aux ordres. Je suis l'ordre mondial, ancré par les puissants, contre les richesses des multinationales. Politiques, économiques, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, ancré par les puissants, contre les richesses des multinationales. Politiques, économiques, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai anéanti le pouvoir national. J'impose ma loi dans les pays. C'est le jeu de l'illusion que vous appelez démocratie. Car l'ordre vient de moi, certainement pas d'un peuple. Je vous façonne à mes choix. Dès que vous tombez dans la peur, je suis le produit des tyrans, la structure qui détruit au nom des valeurs marchandes implantées jusqu'à vos esprits. Je pompe le sang du tiers monde, chauffe leur politique, leur ordonne de nous vendre tous leurs services publics. Un peuple qui se lève, moi je lui couperai ses vifs pour mieux alimenter sa haine et l'emmener en guerre civile. Derrière pas meilleur profit que le business de la mort. Destruction, construction, investissement, marché des armes, pro-guerre, prospère. Je fais monter la sauce qui monte les uns contre les autres pour alimenter ma force. Car mon règne prend son ampleur dans toutes vos divisions. Libéralement capitaliste au service de vos illusions. Je suis l'ordre mondial, ancré par les puissants, contre les richesses et multinationales. Politiques, économiques, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, ancré par les puissants, contre les richesses et multinationales. Politiques, économiques, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Sous des profits, toutes des marchandises, telle est ma devise. J'ai inventé les classes pour que vous trompez d'ennemis. Je vous ai donné des outils pour lutter contre moi. Des syndicats, quelques partis, mais toujours cadrés par mes lois. Je détruis la nature, car ce qui importe, c'est la croissance. Votre planète, elle est devenue mon esclave. Je la nourris de déchets, la pollue jusqu'à la racine. Pendant que je me rassasie, de nouvelles mesures assassines. J'empoisonne vos corps d'aliments trafiqués, génétiquement modifiés. Car le mal, ça fait des chiffres. J'ai déréglé le climat, déshumanisé les hommes, les natures et le vital. Flinguer l'espoir en plein essor. J'ai réussi à vous faire croire que la vie se résumait à consommer, consommer. Pour mieux construire mon empire, je suis capable du pire pour vous faire croire en ce qu'il faut. Si je contrôle vos esprits, c'est grâce à la culture du profit. Je suis l'ordre mondial, ancré par les puissants, contre les richesses et multinationales. Politiques, économiques, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, ancré par les puissants, contre les richesses et multinationales. Politiques, économiques, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis le masque pour la masse qui fait confiance dès le départ. Le tout poursuit et ne voit pas la fin du monde qui se prépare. Je suis l'ordre mondial, nouvel l'ordre mondial. Partout sur la planète, si on joue sur l'échiquier, je vais toujours 10 coups d'avance. Moi j'ai rendu du mal carré pour qu'il vous puisse sa dernière chance.
De retour sur Voix de Fait, à Voix de Fait en fait, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit sur les ondes de CKIA 88.3 FM à Québec. Vous venez d'entendre Kenny Arcana, Nouvel Ordre Mondial, de son nouvel album, enfin nouveau, presque nouvel album, Désobéissance.
Récent
album, comme dirait mon collègue, Désobéissance. Avant ça, on avait écouté René Binamé de l'album, mon Dieu.
C'est En mai, fais tout ce qui te plaît, avec la chanson Alléluia.
Ouais, c'est ça, c'est sorti en 1953, ça, hein, je pense.
Ah, t'es-tu sûr? Je pense qu'il est né en 53.
En fait, on m'a expliqué, puis on s'est bien foutu de ma gueule d'ailleurs, que René Binamé, c'était pas quelqu'un, mais un groupe.
Donc, beaucoup de gens.
Beaucoup de gens.
Bizarre.
Et il y a la guerre en ce moment?
Ouais.
Sahara, 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 Sah
quoi ça?
Ouais, ben, ce qu'on est en train d'entendre, c'est des slogans enregistrés le 3 janvier dernier à Tel Aviv, le jour en fait du début de l'invasion terrestre de la bande de Gaza par l'armée israélienne. En fait, c'est une manifestation du mouvement pacifiste israélien contre les bombardements, contre l'invasion israélienne. En fait, il y a, et oui, en Israël, un mouvement anticolonialiste, antiraciste et pacifiste. Et puis, ben c'est ça. Depuis le 17 décembre 2008, Israël mène, comme on le sait, une offensive militaire de très grande envergure dans la bande de Gaza. Il y a au moins 660 personnes qui sont mortes.
C'est un massacre. C'est plus une offensive.
Ouais, ben c'est un massacre offensif.
Ouais. Une agression.
Une agression armée caractérisée. Enfin, bon, bref. Il y a 660 personnes qui sont mortes, 3000 qui ont été blessées lors de bombardements aériens et l'invasion terrestre, justement, qui, comme je viens de le dire, a commencé le 3 janvier 2009. Israël a ignoré jusqu'à maintenant les appels internationaux pour un cessez-le-feu et refuse de permettre le transport de nourriture, de matériel médical et d'autres biens nécessaires à la vie dans la bande de Gaza. Il y a eu un cessez-le-feu de 3 heures mercredi pour permettre justement aux gens là, de se ravitailler vite vite, mais en gros c'est bouclé. Il nous semble qu'il est important de mettre en avant les actions et les positions de nos camarades israéliens en fait, qui sont très 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 rarement mentionnés par les médias. En fait, si on en croit les médias, et ça fait bien l'affaire du gouvernement israélien et des dirigeants islamistes, le peuple israélien ce serait juste un bloc derrière la politique de guerre et tout le monde en fait qui est critique de ça se retrouve à être antisémite. Sauf qu'en Israël, comme dans tous les pays ici, il y a une classe qui dirige et qui tire profit évidemment des aventures militaires. Ben la majorité de la population reste composée de travailleurs et de travailleuses qui ont pas vraiment grand chose à gagner, plutôt tout à perdre dans l'occupation de la Cisjordanie, les bombardements de Gaza. Là-bas comme ailleurs, l'argent qui est dépensé par le gouvernement pour la guerre et le maintien de l'occupation, ce sont des écoles, des hôpitaux, des services publics, en moins pour les quartiers populaires de Tel Aviv, d'Haïfa ou d'ailleurs. Dans la bande de Gaza, c'est en premier lieu des enfants d'ouvriers et de pauvres en fait qui vont tuer et se faire tuer pour des intérêts qui sont pas les leurs. Donc, ouvriers d'Israël ou de Palestine, les travailleurs qui parlent hébreu ou arabe, sont utilisés les uns contre les autres par les impérialistes, mais il y aurait en fait un intérêt commun pour mettre fin à cette boucherie-là et pour construire un Moyen-Orient qui serait débarrassé des guerres et de l'oppression. Comme on le dit, il y a des manifestations massives qui ont lieu jour après jour. En fait, ça a commencé dès la nuit du 27 décembre. Il y a eu plus de 2000 personnes à Tel Aviv. Une manifestation qui est organisée dans l'urgence, appelée par le bouche-à-oreille, les SMS, les emails. Le 3 janvier, il y a eu plusieurs milliers de personnes. C'est surtout des actions quotidiennes contre la guerre aussi qui ont lieu, des actions directes qui sont organisées surtout par des communistes et des anarchistes.
Il y en a eu une action directe par un soldat. Il a tiré 3 des siens avec son tank.
Je sais pas si c'était une action directe ou si c'était une erreur.
C'est une action directe, mais ça veut pas dire qu'à volonté.
Parlant des soldats, on est rendu à plus de 2000 refusniks, des réservistes israéliens qui refusent de retourner, un coup qu'ils ont fini leur service militaire, parce qu'ils peuvent être rappelés.
Il leur reste un peu du jeu.
Ben oui, mais à un moment donné, ils disent que c'est une force de défense, c'est la Israeli Defense, c'est ça, fait qu'ils refusent ça. Donc il y a quand même, dans la société israélienne, tout plein de résistance. D'ailleurs, on a mis quelques exemples en vidéo sur notre blog. Si vous allez voir, il y a entre autres une action des anarchistes contre le mur qui bloque l'aéroport militaire de je me souviens plus quelle localité. Il y a aussi différentes manifestations de pacifistes et des communistes avec des anarches aussi. Donc, où en est le mouvement pacifiste et anticolonialiste israélien aujourd'hui? Parlant de résistance dans la société israélienne, il y a Alternative Libertaire, c'est bien pratique des fois d'avoir un mensuel francophone, qui publiait une entrevue avec Michel Warcharski, un militant anticolonialiste et antisioniste israélien, qui lui revendique le remplacement d'Israël par un État binational. C'est un bonhomme qui a été condamné à 20 mois de prison ferme en 89 parce qu'il avait imprimé des tracts pour le Front Populaire de Libération de la Palestine.
C'est pas tenir ça.
Il ne sait pas tenir sa langue. Aujourd'hui, c'est en fait un des principaux animateurs là, des réseaux de médias indépendants en Israël.
Alors, il y a ça en Israël.
Ben oui, ben en fait, ils ont aussi des équivalents de CEMAC qui est des médias et des radios communautaires.
C'est comme aux États-Unis, c'est genre, tu dis de quoi de croche, on te saisit tout.
Non, quand même pas. Mais ils font un gros travail, là, c'est le Centre israélien des médias indépendants, en fait, je pense. Ça se trouve sur Internet. On va mettre un lien sur notre blog. Et donc, ce bonhomme-là est interviewé. Quant à savoir où en est le mouvement pacifiste et anticolonialiste en Israël aujourd'hui, lui, ce qu'il dit, c'est que, en gros, bon, l'entrevue a eu lieu un peu avant, en fait, les bombardements, lui, visiblement, en octobre ou en novembre. Il se trouvait que qu'il trouvait que ça se trouvait en fait plus dans un creux de vague. Il faut distinguer deux composantes. D'un côté, t'as la composante dure, anticolonialiste, antiraciste, contre l'occupation. C'est 2 à 3 000 personnes en fait en Israël qui se retrouvent sur cette position radicale-là. C'est une tendance qui se porte plutôt bien maintenant, mais qui reste marginale. Mais quand même, il faut savoir que dans les années 60, on parlait d'une centaine de personnes. Aujourd'hui, on parle de 2 à 3 000 personnes.
Ouais, et puis une population équivalente au Québec.
C'est 6 millions de personnes, ouais, c'est ça, Israël.
Y a-t-il 3 000 antiracistes radicaux au Québec?
Je sais pas, mais en même temps, il n'y a pas non plus de bande de Gaza. Quoi qu'on peut parler des réserves, mais ouais, c'est pas tout à fait la même situation. Quoi qu'il y ait des parallèles à faire, c'est
beaucoup
évident. Le mouvement pacifiste, lui, qui est un peu plus modéré, mais qui est beaucoup plus massif, organisé autour du groupe La Paix Maintenant, et en fait était en perte de vitesse avant le début des manifestations. Il y a un groupe qui est en pointe, qui monte, qui s'appelle les Anarchistes contre le mur, qui, d'après Michel Warshawski, occupe une très grande place dans le mouvement psychanalyste. C'est un mouvement qu'il affectionne particulièrement, qui est vraiment à la pointe des mouvements et qui réussit à entraîner, pas seulement contre le mur. C'est un mouvement de jeunes. Lui, il dirait que c'est une avant-garde. J'imagine que dans sa bouche, c'est un compliment. Une avant-garde très combative et qui est en phase avec les problématiques de la société israélienne, ce qui, pour lui, c'est synonyme de changement. C'est bien, ça veut dire en fait que la jeunesse israélienne se réveille. Quand on lui demande avec quelle force palestinienne les anticolonialistes travaillent en Cisjordanie dans la bande de Gaza, il répond que ça dépend du combat. Contre le siège de Gaza, par exemple, ils travaillent avec des coalitions nationales, souvent des coalitions très larges qui peuvent comprendre le Hamas. Pour la lutte contre le mur, par contre, ils vont travailler avec des comités populaires dans les quartiers, puis dans les villages, en fait, comme actuellement à Nilin. Mais les organisations politiques sont aussi présentes là, dans la lutte contre le mur de sécurité. De façon générale, en fait, ce qu'il dit, lui, c'est qu'il travaille avec qui veut bien travailler avec eux autres, parce que, bon, ils ont pas les moyens, à 2-3 000 dans une société qui est en guerre, à faire la fine bouche quant à savoir avec qui ils vont faire des alliances contre la politique colonialiste de leur État. Bon, maintenant, le mouvement prend de l'ampleur, et pas seulement en Israël. On a vu, selon un journaliste de la presse, et aussi selon nos camarades de la nuit qui sont venus de Montréal, il y a au moins 5 000 Montréalais, près de 10 000 en fait, d'après
de
Ben.
De la nuit,
et,
de Montréal?
Oui, ben, Benoît et Véro sont venus de Montréal mardi.
OK.
Mes camarades de la nuit.
C'est pas cool.
D'accord. Qui étaient à Montréal, en fait, pendant les temps des fêtes et qui se sont retrouvés au milieu de cette manifestation-là, qui était monstrueuse, semble-t-il. Au moins 5000 personnes, selon la presse. Et puis, comme la plupart du temps, dans ces cas-là, il faut doubler. On nous dit, en fait, que c'est plus proche de 10 000 personnes qui ont manifesté, donc, dimanche dernier, contre le bombardement et l'invasion terrestre de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Et c'est la même chose à Toronto. On parle aussi d'à peu près 10 000 personnes à Toronto qui ont manifesté. C'est quand même pas rien. En fait, même mercredi, aujourd'hui, si vous nous écoutez mercredi, hier, si vous nous écoutez jeudi, il y a des militants juifs, en fait, qui ont occupé le consulat israélien à Toronto. L'action visait à dénoncer les attaques incessantes d'Israël sur le peuple de Gaza. Le groupe a fait cette action en solidarité avec les 1,5 million de personnes qui sont prises à Gaza, et pour s'assurer que la voix des Juifs et des Juives qui s'insurgent contre les massacres à Gaza soit entendue, demande qu'Israël cesse les attaques militaires et lève le siège de 18 mois sur la bande de Gaza afin de permettre à l'aide humanitaire d'entrer enfin dans le territoire. Les manifestantes étaient outrées des plus récentes attaques d'Israël sur le peuple palestinien et surtout du refus du gouvernement canadien de condamner ces massacres-là. Elles sont profondément préoccupées par le fait que les Canadiens n'entendent que les visions des groupes pro-Israël présentés comme étant la seule voix des Juifs et des Juifs canadiens. Donc les manifestants ont occupé le consulat pour envoyer un message clair. Il y a beaucoup de Juifs canadiens qui ne supportent pas la violence d'Israël et ses politiques d'apartheid et se joignent à toutes les personnes de conscience autour du monde qui demandent la fin de l'agression israélienne et la justice pour le peuple palestinien. Donc dans le lot, il y avait Judy Rubick, professeure, mais c'est aussi l'ancienne présidente du Conseil canadienne du statut de la femme, Judy Deutsch, psychanalyste et présidente de Science for Peace, Madame Yahel, une réalisatrice, Madar Carmen, je ne sais pas comment je le prononce bien, enfin, bon, une militante israélo-canadienne pour la paix, et plusieurs autres femmes. La police a mis fin à l'action en arrêtant 8 femmes qui ont toutes été relâchées depuis. Au moment où on se parle, il n'y a pas personne qui est en prison pour ça. La réaction à ce qui se passe actuellement, au Canada avec toutes ces manifestations-là et tout est quand même hallucinante. L'attitude du gouvernement canadien est carrément honteuse dans le dossier. En effet, on a pu lire dans les journaux en fin de semaine le chef de la diplomatie canadienne qui a posé comme condition à un cessez-le-feu l'arrêt des tirs de roquettes. C'est clair, pour l'État fédéral, c'est Israël la victime dans toute cette histoire-là et la riposte n'est que de la légitime défense. On pourrait parler de légitime démence, mais bon. On passe sous silence deux faits qui sont, somme toute, relativement importants dans le dossier, comme par exemple le fait que les Palestiniens sont sous occupation militaire étrangère depuis plus de 60 ans et qu'Israël bafoue allègrement toute une flopée de motions et de résolutions de l'ONU concernant la Palestine. Donc, soyons justes, là, indépendamment de la haine ou du dégoût qu'on peut ressentir face au Hamas, c'est Israël l'agresseur dans le dossier, les victimes, c'est les civils palestiniens. Ça me semble être une évidence, puis en bas de cette reconnaissance-là, il n'y a pas vraiment de dialogue possible. Donc, d'ailleurs, le simple fait là, que, si on fait les calculs, il y a eu plus de morts à Gaza depuis le début de l'opération que de roquettes lancées vers Israël, donc ça devrait porter à réfléchir, mais bon. Le nationalisme et l'idéologie là, aveugle beaucoup de gens. Comme, par exemple, par rapport à la manifestation de la fin de semaine dernière à Montréal, toujours dans la presse, on rapportait que le directeur général de Québec-Israël présentait cette manifestation-là comme profondément haineuse. On essaie de nous faire croire que toute critique en fait de l'agression israélienne est un signe d'antisémitisme, ce qui est d'un ridicule consommé. Là. Surtout que, comme on essaie de le montrer, là, tout à l'heure, la société civile israélienne est loin, mais alors là, très loin d'être unanime face à l'explosion de violence dont se rend coupable son État. Alors voilà, c'est tout à fait légitime d'être dégoûté par ce qui se passe et de le crier, tout comme c'était légitime de l'être par ce qui s'est passé au Liban il y a 2 ans. Là, la décence élémentaire, d'ailleurs, exigerait que le Canada se la ferme, à défaut de condamner une agression militaire sauvage contre une population civile à peu près sans défense. Bon, maintenant on peut se demander, et à Québec? À Québec, va-t-il se passer de quoi? Les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent et qui lisent les grands journaux savent qu'il va finalement y avoir une manifestation. En fait, samedi, le 10 janvier, nous du collectif Anarchistes la Nuit, on va se joindre à la manifestation de solidarité avec Gaza organisée par la Coalition de Québec pour la paix. Et on invite tous les auditeurs, toutes les auditrices à faire de même, à venir manifester contre l'occupation, à venir dire qu'à Québec aussi, on est opposé au massacre. D'ailleurs, si vous voulez marcher avec nous autres, vous avez juste à chercher les drapeaux rouges et noirs, on va être sur place. Donc, cette manifestation-là de solidarité avec Gaza à Québec va avoir lieu samedi le 10 janvier à 13h, donc un rassemblement à 13h au centre Lucien Borne. Ça, c'est le 100 chemin Sainte-Foy, c'est à la lisière entre Saint-Jean-Baptiste et Montcalm. C'est une marche qui va passer par le carré d'Youville, qui va ensuite se diriger au consulat des États-Unis, derrière le château Frontenac, et qui devrait revenir vers le consulat de la France. On annonce déjà que s'il y a une tempête, une solution va être trouvée. Consulat de la France? Tout ça dans le vieux, là.
Non, États-Unis, il me semble qu'il est écrit...
Ouais, c'est écrit États-Unis, sauf que depuis, j'ai appris qu'il se rendait aussi au consulat.
On s'en va en France!
Non, oui, on s'en va en France, on a fait un charter. Yeah. On va manifester en France. Non, mais il va passer devant les deux. En fait, je sais pas pourquoi le consulat de la France, mais il doit y avoir une raison. En fait, c'est ça que j'ai vu partout, là.
Finalement. C'est beau, le consulat de la France.
Bon. S'il y a une tempête, il va y avoir une solution qui va être trouvée, mais il y a un rassemblement qui va nécessairement avoir lieu au centre Lucien-Borne à 13h.
Tu es en train de dire que la manifestation ne serait pas capable d'affronter un bombardement de flocons. Ça fait dur.
Je ne sais pas, moi, c'est ce que je te dis ce que la Coalition Paix a dit.
OK.
D'accord?
J'arrête.
Par ailleurs, il y a une déclaration qui circule actuellement qui, jeudi, va être... elle est déjà publique, en fait, mais jeudi, on va savoir qui l'a signée. Nous, au collectif, on l'a signée, déjà. Comme ça, on peut le dire.
Ouais.
On peut dire qu'on a signé l'appel de la Coalition de Québec pour la paix.
Avec quelqu'un mandaté pour la signer.
Ouais.
Je sais pas si elle avait un crayon.
Semble-t-il que oui. Donc, en solidarité avec le peuple palestinien pour la justice et la paix, nous réclamons l'arrêt immédiat des bombardements et de l'offensive de l'armée israélienne à Gaza, qui s'apparente à un crime contre l'humanité, la levée immédiate du blocus imposé contre la population de Gaza depuis 1994. Ces blocages imposés par les forces armées sont immoraux et violent les principes fondamentaux du droit international et du droit humanitaire, et la fin du soutien aveugle du gouvernement canadien à la politique israélienne. Ces exigences sont minimales et simplement fondées sur le droit international et donc sur les droits humains les plus élémentaires. Nous déplorons fortement l'occultation médiatique de la violation des droits du peuple palestinien. En fait, il faut rappeler que la Palestine est sous occupation militaire, comme je disais, et que la population est constamment opprimée par des forces étrangères. La souveraineté du peuple palestinien sur son territoire et ses ressources est bafouée. Pour instaurer une paix juste et durable, il faut mettre fin à l'occupation israélienne et respecter les droits fondamentaux du peuple palestinien reconnus par les Nations Unies à travers une série de résolutions totalement ignorées par Israël et les principales puissances du monde. Donc, voilà, ça c'est la déclaration, l'appel de la Coalition de Québec pour la paix.
Juste une petite affaire cette semaine, j'ai quand même, il y avait RD, un petit débat sur, t'avais un Palestinien puis un Israélien, deux experts, deux sommités, mais j'ai pas pogné le début de l'entrevue, fait que j'ai pas un nom. L'Israélien avait quand même le culot de dire, il n'y a pas blocus ni occupation puisqu'il y a des armes en Palestine, en bande de Gaza. C'est comme, ah, ok, ben c'est oui. Quoi la liaison? Mais bon, ils se défendent avec des trucs.
Je vais éviter de faire des parallèles, parce que ce serait douteux.
Absolument débile. Quand tu vois du monde qui défend Israël, c'est boiteux.
Oui, parfaitement. D'ailleurs, il faut savoir, je sais pas si vous avez vu, j'ai vu ça, Rue 89. En fait, presque tous les médias maintenant ont coupé les sections commentaires sur les articles qui touchent à ça, parce qu'ils se ramassent avec des centaines et des centaines de commentaires d'un bord puis de l'autre, puis ça a plus de sens. Donc, toujours est-il, finalement, il y a manifestation, donc, samedi le 10 janvier à 13h, départ du centre Saint-Barnes. Si vous voulez, il va y avoir aussi des vigiles qui vont permettre de distribuer des tracts d'invitation sur lesquels vont être imprimées la déclaration et d'exprimer à quel point nous nous sentons touchés par la situation urgente des gens de Gaza. Donc, des vigiles qui vont avoir lieu à Québec. Il y a jeudi, le 8 janvier, à 16h, rassemblement au Carré d'Youville pour une distribution de tracts et une vigile. Et vendredi, le 9 janvier, à 16h, devant la bibliothèque Gabriel-Leroy. Dans les deux cas, la Coalition Québec pour la paix demande aux gens de venir avec de quoi faire de la lumière. C'est une vigile. Ça prend des flashlights, des chandelles, Elle sait pas. sinon, finalement, il va y avoir création de pancartes vendredi, 13h, au Café-Bar L'Agité. 251 Dorchester, quartier Saint-Roch.
Juste à côté de la page noire.
Juste à côté de la page noire, oui. Notre infoshop local. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site web de la coalition, donc www.coalitionquebec avec un s.org. Et puis sinon, ben, si jamais vous voulez en savoir plus, puis continuer de nous entendre, ou de nous voir, ou de nous lire, on est sur votre fait.
Des photos de nous sur votre fait.
Ben oui, tu savais pas, il y a une section spéciale.
Shit.
Plein de photos de toi. Sur Voix de fait. Voix de fait avec un xr1s.blogspot.com. Bon. Et ouais, ben c'est pas mal ce qui va mettre fin à cette émission. On va terminer ça en douce avec Webster.
Ouais, ben, ça va pas être le dernier. J'ai Webster, puis j'ai trouvé de quoi pour faire la fin. Mais là, on va mettre Ellen.
Ouais, ben avant ça, on va quand même dire bonjour, bonsoir.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi, bonne
nuit. Donc c'était Nicolas?
Oh, désolé.
Et
vas-y, Jenny.
Jenny.
Yeah. Hey, Ellen de Webster.
Les pattes de baisse, nos plaques, on soigne nos whisk. C'est plat, mais c'est comme d'hab, les gars qui plottent. Un peu de cash, il veut des slots, verrez trop bas, il veut des coques, de des coupables. Si j'ai rien, le cru ménage, mais j'habite la zone grisâtre. Toute la ligne en bien humain, t'embrouillé de manière bizarre. Tout ce que je dis est vrai, si je mens, allez, dis-moi. Beaucoup de figs around, je boirais bien fait au bismol. Et puis les clés se sont détournées, ces amis street. La jeune beaucoup de pression, le plus que quelques de ces amis spray. Le virus dans le district propage de le streptocoque. De moins en moins artistique, naïve, les streptocoque. On m'appelle Web Observator, celui qui garde le même époque. La police met bien la porte pour ce qui est de nos problèmes. Il faut c'est trop dommage qu'en 2007, c'est cause des clashs et de succès. Les gens n'en passent, les oranges, plus on se bâche pour au mieux c'est.
sorry, mais c'est ça. La réalité frappe comme un coup de patte, c'est mis au sas, c'est confortable, quoi de mis au sas. Each time, c'est les remarques, couche au bout de salle, t'es la médaille. Dès que tu rentres dans les détails, c'est toi qui te coupe le temps d'antenne. C'est ta mère, t'as raison, plus de mère, Teresa, c'est t'en perdre la raison, ce qu'ils ont pu faire pour trahison. Meurtre à coup de pierre, fin de guette, la cargaison. En son son meurtre avec une couverte, c'est le camouflé en crevaison. Tour de fix, suicide, et de gay putes sous les sacs. Qui arpente la troisième ave pour se mettre des suicides. C'est une histoire de love entre le junkie et sa bague. Ou encore c'est une histoire de pop entre homies qui tournent mal. On m'appelle web, on se raccorde, celui qui garde le même micro. La police très bien d'accord pour ce qui est dans le problème. Il pense c'est trop dommage qu'en 2016, plus de plage que de succès. Les gens en face, ça les arrange. Joue la tour comme un musée, je pars comme serve d'un douce patron. Elle laisse son rap pour notre musette. Il trouve que groupe de douce c'est trop. Trop connique mon collectif parce qu'il croit qu'on est des games. Mais le split hyper actif, les gars s'achelinent comme des pimpers. C'est pour mais nous empêche à tort de réussir. Comme pauvre, on garde la pêche, on reste fort comme des loisirs. Y arrivera ce qui arrivera, on verra qui vivra, qui périra. Believe moi ça ira, les gars se disent la guérilla. Passe de petit magouillard à hip hop révolutionnaire avec le douce. En bandoulière, soum, ce sont des douillettes. Et quand je te dis que je vais au front, c'est que je me sers de ma tête. S'agit que t'embrasses la mort de front, et tu survivras peut-être. On m'appelle Web Observateur, celui qui garde le même micro. Et bientôt videra ce tort, où il faudra se lever de bien. Tu vois pas, en 2007, on m'en prend plein. Un peu plus sec, beaucoup plus large, de la musique que tu prépares pour nous mieux faire.
Oui, c'est Hélène de Webster qui vient de terminer spécial dédicace. Hélène qui nous écoute en rediffusion. Alors, on va finir l'émission de cette semaine avec Tic & Jeff a collé une nouveauté qu'on vient de recevoir à la station avec Promesse de Caméléon. Bonne semaine.
Quand un général s'engage...
Aidez-nous à aider les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, ce que j'ai tenu à vous dire pour que les choses soient claires dans les esprits et que des quiproquos ne puissent pas nous diviser. Nous sommes venus pour balayer la maison. Une fois qu'on aura mis de l'ordre, et croyez-moi, je ne suis pas un ambitieux du pouvoir. Sinon, j'ai les mêmes aptitudes que mes frères d'armes de cette équipe.
Oui, j'ai
que les diplomates soient rassurés, que nos ambassadeurs, auxquels j'ai expliqué les détails de ce qui s'est passé, je crois qu'ils comprendront que ce qui est dit actuellement dans les polices ne sont que des rumeurs. Nous sommes venus pour faire au mieux pour que les Ivoiriens puissent effectivement orchestrer la bonne politique qui puisse être dans l'intérêt supérieur du pays, pour le bonheur du peuple et pour le salut de la République.
Ce regard.
débile au pouvoir. Garde ton honneur, balaie la maison, retourne au quartier, comme tu l'avais promis. Retourne au village, balaie la maison, garde ton honneur, le peuple te regarde, rentre dans l'histoire, avec civil au pouvoir, le peuple te regarde, comme tu l'avais promis.
Pas une ambition de pouvoir.
Tu nous avais promis.